Amis, bonsoir.
Bonsoir.
Donc ce soir, nous allons écouter une conférence sur l'approche ésotérique du mythe du péché originel. Alors maintenant, nous allons faire une petite lecture avant la conférence. Une lecture qui est tirée de la doctrine secrète de Madame Blavatsky. Au tout premier début de l'homme, l'intelligence psychique et physique étant en sommeil et la conscience encore non développée, les conceptions spirituelles de cette race des origines étaient sans rapport avec son environnement physique. Cet homme divin résidait dans sa forme animale, même si elle avait une apparence extérieure humaine. Et s'il y avait de l'instinct en lui, par contre, aucune soi conscience ne venait éclairer les ténèbres de Manas, c'est-à-dire le mental, qui était encore latent. De même que le premier mouvement intérieur de l'enfant est pour sa mère, de même les premières aspirations de la conscience s'éveillant dans l'homme primitif furent pour ceux dont il ressentait l'élément en lui-même et qui pourtant était extérieur par rapport à lui. La dévotion naquit de ce sentiment et devint le premier moteur dominant dans sa nature, car c'est le seul qui soit naturel dans notre cœur, qui soit inné en nous, et que nous trouvions aussi bien dans le tout jeune enfant que dans le petit animal. Ce sentiment d'aspiration instinctive que rien n'aurait pu réprimer dans l'homme primitif a été évoqué par Carlyle en termes pleins de beauté et inspiré par une véritable intuition, dirait-on. Il nous dit « Ce grand cœur antique est comme celui de l'enfant dans sa simplicité et comme celui de l'homme dans sa pure solennité et sa profondeur. » Où qu'il aille sur la terre, le ciel est au-dessus de sa tête. Il fait pour lui-même de toute la terre un temple mystique et de toute démarche terrestre une sorte de culte. Alors maintenant, on va passer à la conférence. Merci d'éteindre votre portable si vous ne l'avez pas déjà fait.
Alors amis, nous allons essayer d'entrer dans l'ésotérisme du mythe du péché originel parce qu'il ne faut surtout pas essayer de vouloir le prendre à la lettre et on va essayer de décoder cette allégorie parce que prise à la lettre, c'est un non-sens d'un point de vue scientifique mais aussi d'un point de vue éthique parce que c'est complètement injuste d'être responsable de péchés qui ont été commis par des ancêtres extrêmement lointains. Alors, avant de commencer à en parler, nous allons faire un bref résumé des trois premiers chapitres de la Genèse. Alors, dans le premier chapitre, il est dit que les ténèbres étaient et que Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu désire que la lumière vienne et la lumière fut. Il sépare la lumière des ténèbres, puis les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il assemble les eaux inférieures pour avoir une étendue sèche et il obtient ainsi la terre et la mer. Sur la terre, il souhaite que poussent les végétaux et qu'apparaissent les animaux et dans le ciel les étoiles. Tout cela représente un travail de 5 jours. Et le 6e, l'homme et la femme sont créés à son image. Dieu se reposa le 7e jour. Cependant, on va voir que l'ordre va changer, l'ordre au niveau des règnes va changer au 2e chapitre de la Genèse. Parce qu'il est dit, à partir de la poussière de la terre, Dieu crée d'abord l'homme, puis il souffle dans ses narines un souffle de vie qui le rend vivant. Ensuite, il plante le jardin de l'Éden dans lequel il le place. Il y fait pousser de nombreux arbres, agréables à voir et bons à manger. Et au milieu du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à l'homme qu'il peut manger du fruit de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en goûtera, il mourra. Pour qu'Adam ne soit pas seul, il forme à partir de la terre tous les animaux. Puis, à partir de l'une de ses côtes, il crée la femme Ève. L'un et l'autre sont nus, mais ils n'en ont pas honte. Dans le troisième chapitre de la Genèse va intervenir le serpent, qui est le plus rusé des animaux. Il dit à Ève que s'ils mangent du fruit de l'arbre défendu, leurs yeux s'ouvriront et ils seront comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme voit que l'arbre est bon à manger et agréable à la vue et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prend son fruit, en mange et en donne à Adam qui le goûte aussi. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent, ils découvrent qu'ils sont nus. Ils cousent ensemble des feuilles de figuier pour s'en faire une ceinture. Dieu qui parcourt le jardin le soir les appelle. Ceux-ci se cachent et Dieu leur demande pourquoi. Adam leur répond que c'est parce qu'ils sont nus. Alors Dieu leur demande qui le leur a appris. Adam lui explique qu'Ève lui a fait manger de l'arbre de la connaissance. Et Ève lui raconte que le serpent l'a séduite et qu'elle en a goûté. Alors Dieu maudit le serpent en le condamnant à ramper sur le ventre et à manger de la poussière tous les jours de sa vie. Il dit à la femme qu'elle enfantera dans la douleur et à l'homme que c'est désormais à la sueur de son front qu'il se nourrira jusqu'au moment où il mourra et redeviendra poussière. Il épargne d'habits de peau. Alors au verset 22 du chapitre 3, il est dit textuellement « L'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden et mit à la porte du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc voilà. Alors maintenant, nous allons essayer d'entrer dans cet ésotérisme à la lumière de la théosophie. Alors d'abord, la première chose que nous devons dire, c'est qu'il n'existe pas de Dieu anthropomorphique dont l'idée est véhiculée par les chrétiens, qui aurait créé le monde à partir de rien, d'ailleurs, à un moment donné. Alors pourquoi à ce moment-là et pas un autre, ça, tout le monde l'ignore. Et qui serait complètement le maître absolu, qui déciderait de sa destinée, etc. Un Dieu qui serait arbitraire, parce qu'on voit dans la Bible qu'il se met en colère. Mais pour la théosophie, c'est un principe universel qui est à la source de tout ce qui vit, qui est à la source de toute vie, de toute conscience, de toute énergie, de tout ce qui va se déployer dans la manifestation. Et si nous prenons maintenant la Kabbale, eh bien, il est dit au commencement, les Alim créèrent les cieux et la terre. Alors, les Alim, il faut savoir que c'est un nom féminin pluriel qui est le féminin d'Eloah. Et les Alim, eh bien, en fait, ils renvoient à une collectivité d'entités spirituelles. Et on se souvient. Dans le résumé, on a dit qu'à un moment donné, Dieu dit « L'homme est devenu comme l'un de nous, il emploie le nous ». Et ceci, ça fait référence aussi, bien évidemment, au démiurge de Platon, qui correspond à des hiérarchies spirituelles, hautement spirituelles, à divers degrés, et qui auront un rôle différent dans la manifestation. Il y aura les architectes, bien évidemment, les constructeurs du monde, les façonneurs, enfin une multitude de hiérarchies spirituelles. Donc, l'idée du Dieu créateur doit être absolument bannie de notre pensée, et il faut plutôt se tourner vers cette idée de collectivité de créateur. En sachant que cette idée de Dieu, c'est bien évidemment donc ce pouvoir illimité que chacun porte en lui-même et la source dans laquelle nous sommes absolument tous enracinés. Ensuite, dans dans la doctrine secrète, on verra qu'il est parlé de plusieurs créations. Alors, en fait, il faut bien comprendre qu'on parle en fait de sept grandes créations. Et ceci fait référence notamment, entre autres, aux sept grandes rondes ou grands cycles de vie qui vont permettre à une humanité complète de s'épanouir. Et on comprend bien que quand il y a l'univers qui commence à se déployer, parce qu'il faut savoir que l'univers va se déployer, naître, apparaître à un moment donné, se déployer, permettre à tous les êtres qui sont les constituants de cet univers de se développer, d'évoluer, et donc à une humanité de se développer complètement. Eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre le début de cette manifestation, où, si vous voulez, la matière homogène commence à se différencier et apparaît la dualité, mais la dualité esprit-matière ou esprit-substance, mais cette substance est extrêmement fine, extrêmement raréfiée, alors que 3-4 cycles après, 4 grands cycles après, en sachant que nous sommes engagés dans ce quatrième grand cycle d'évolution, quatrième ronde, eh bien, la matière s'est complètement densifiée. Et c'est la raison pour laquelle, vraisemblablement, que l'on va trouver cette divergence dans la Genèse, où on voit l'apparition des règnes qui est inversée par rapport à l'homme entre le premier et le deuxième chapitre de la Genèse. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, quand dans la Genèse, il est parlé de jours, c'est bien évidemment rien à voir avec un jour terrestre. En fait, ça fait référence à une immense période d'évolution. Par exemple, dans l'hindouisme, il est parlé de jour et de nuit de Brahma. Un jour correspond à la durée d'une nuit de Brahma. Mais un jour, en fait, il faut savoir que ça correspond exactement à l'évolution totale d'une humanité, c'est-à-dire à nos sept rondes qu'on trouve dans la doctrine secrète. Et ça correspond, en année terrestre, si vous avez envie de savoir, à 4 milliards 320 millions d'années, ce qui est énorme, vraiment énorme comme durée. Et Brahma aura bien sûr encore des jours, 100 jours de Brahma pour les hindous. Donc la vie d'un univers est immense. Et après, c'est un peu comme un souffle, un univers qui apparaît au niveau d'un, comme une respiration et qui disparaît. Donc on voit cette idée des cycles, avec des cycles immenses et puis des cycles un peu plus petits. La vie d'un homme, c'est un cycle. Le sommeil, le sommeil et la vie de rêve, c'est aussi un cycle. Donc il faut bien garder en tête aussi cette idée des cycles, c'est très très important. Alors, il faut savoir aussi que donc dans ces grands, immenses cycles que sont ces rondes, eh bien, il aura fallu 3 rondes et demie pour que l'esprit arrive à se fabriquer, on va dire, entre guillemets, des instruments capables de le refléter. Et c'est-à-dire qu'il va y avoir une évolution de la matière, donc une involution de l'esprit. Et puis ensuite, il va y avoir une évolution de l'esprit qui va permettre la spiritualisation ou la sublimation de la matière. Elle va devenir de plus en plus éthérée, de plus en plus spirituelle, pour arriver à cet état d'homogénéité qui est le point de départ. Et c'est le but de toute l'évolution. Alors, donc, la doctrine secrète, on va revenir sur la doctrine secrète parce que c'est une œuvre extraordinaire, c'est l'anthropogénèse, la cosmogénèse qui a été mise sur papier grâce à Madame Blavatsky et les maîtres qui sont derrière elle. Donc, dans cette doctrine secrète, il est dit que du soi existant naît Brahma. Brahma, alors c'est la personnification, bien évidemment, de toutes ces hiérarchies spirituelles intelligentes qui travaillent dans la nature, comme on a parlé tout à l'heure de l'architecte. Donc, ça, Brahma, il va y avoir différents niveaux de Brahma, on va dire, entre guillemets, par rapport à la fonction qu'il prend. Il y a l'idéation précosmique avec la substance précosmique, et puis après les choses vont se mettre en route. le mental va s'éclairer, le mental de Brahma, on va dire. On emploie un mot, mais ce n'est pas un personnage, bien évidemment. Il faut toujours impersonnaliser les choses pour comprendre. Et Brahma, en fait, correspond au logos, donc, à différents niveaux. On sait qu'il y a le premier logos, le deuxième logos, le troisième logos. Et en fait, ce troisième logos correspond aussi dans la Kabbale à l'Adam Kadmon. Adam Kadmon, ça correspond à l'homme androgyne. Et donc, il faut savoir que dans le cours de l'évolution, l'homme et la femme vont apparaître, mais non pas la femme à partir d'une côte d'Adam, mais en fait, ce sont les deux côtés, entre guillemets, scindés de l'homme androgyne, c'est-à-dire l'aspect mâle et l'aspect femelle, qui va donner naissance aux premiers hommes sexués. Et là, donc, on va reprendre les choses à partir de la quatrième ronde, de la troisième race de la quatrième ronde. Parce que c'est la race où les êtres sont encore sur le plan astral, ils sont innocents, ils ne connaissent pas le bien et le mal, ce sont des futurs hommes, on va dire, ce sont des hommes, mais des hommes qui sont comme des enfants. Et ça fait référence précisément au stade du jardin d'Éden, c'est le stade de conscience du jardin d'Éden. Mais, comme on l'a vu, dans ce jardin, il y a ce fameux serpent qui est rusé. Dans la Genèse, c'est comme ça qu'il est dénommé. Nous dirions, nous, qu'il est futé. C'est le plus futé de tous les animaux de la création. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le serpent symbolise, en fait, dans toutes les traditions, dans toutes les grandes traditions, il symbolise l'être éveillé, un être qui est au-delà de l'état d'homme, qui est passé par toute l'évolution d'homme et qui est au-delà. C'est un éveillé, c'est un grand sage, c'est un hiérophante. Donc, le serpent dans la Genèse, il faut savoir que la doctrine secrète nous explique que ça fait référence à une hiérarchie d'êtres hautement spirituels qui furent des hommes dans le cycle précédent de vie, dans un grand cycle précédent de vie, et qui sont appelés les Manasaputra ou les Kumara. Alors, Manasa, on retrouve le mot Manas. Manas, c'est le mental. Et en fait, ces êtres ont éveillé, ont stimulé l'éveil du mental de l'homme. Comme si ce mental, il était dans l'homme déjà, mais il n'était pas fonctionnel, il n'était pas actif. Et en fait, c'est comme une bougie. Quand on a une bougie, il suffit d'une seule bougie pour en allumer plein d'autres. Il suffisait que ces êtres s'incarnent, à cette époque, on ne va pas dire s'incarnent, mais se mêlent à l'humanité, pour qu'il y ait cet éveil du mana, cet éveil du mental. Et donc, le serpent, ce serpent de la Genèse, mais il n'est pas satanique. C'est simplement qu'il bouscule l'ordre de l'évolution, parce que l'homme aurait finalement développé cette soi-conscience. Cette conscience, le mental, l'éveil du mental, ça fait référence à l'éveil de la conscience réfléchie. Donc, il l'aurait finalement développé, mais il aurait mis un temps infini et beaucoup de souffrance pour arriver à développer ça. Et donc, ce serpent, il prend karmiquement, il va faire un acte qui aura des répercussions, des responsabilités. Alors, mais on y reviendra plus tard. Alors, Adam et Ève, prenons Adam et Ève. Eh bien, Adam et Ève, c'est pas le couple unique qui va donner naissance à l'humanité. Et heureusement, parce qu'on serait passé par combien de relations entre sœurs et frères, etc. Non, en fait, Adam et Ève symbolisent, représentent la troisième race de l'humanité. La troisième race la troisième race de notre quatrième ronde. Et en fait, à ce moment-là, l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure, il est complètement innocent dans son enfance. Il est incapable de discerner le bien et le mal, puisqu'il n'a pas la conscience réfléchie. Et c'est à la fin donc, de la troisième race, entre la troisième et la quatrième, qu'il va y avoir ce mélange entre ces Kumara ou ces Manasaputra et ces hommes qui sont encore dans leur état d'enfance. Et donc, ça va lui permettre donc d'éveiller sa capacité de faire des choix responsables, de devenir un homme par la suite, un homme qui se tient debout, capable de choisir, capable de discerner entre ce qui est bien et mal, donc de faire des choix qui le rend responsable après de ce qu'il fait. Même s'il fait des erreurs, eh bien, la loi de karma le remettra à son métier et finalement, il finira par en tirer des leçons. Et donc, ça fait donc référence, ces Manasaputras, ça fait référence bien évidemment au mythe de Prométhée. Prométhée qui est venu, qui a volé le feu du ciel pour l'apporter aux hommes. Et donc, Prométhée, bah, c'est cette hiérarchie d'être. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas neutre d'avoir fait cette action, d'avoir voulu volontairement venir, devenir comme des parents spirituels de l'homme, l'accompagner dans son éveil. C'est pas neutre, parce que comme des parents, quand ils mettent un enfant au monde, eh bien, en fait, ils en sont responsables jusqu'à sa majorité, jusqu'à ce que ce soit un homme ou une femme à part entière. Eh bien, là, c'est pareil. Prométhée est enchaîné à l'homme. Tant que l'homme n'est pas devenu, n'a pas atteint sa stature, il n'est pas devenu comme du niveau de l'éveil, de ces hiérarchies que nous appelons les Manasaputras. Et donc, c'est pour ça que dans la Genèse, il dit que le serpent est condamné à manger de la poussière de la terre et à ramper sur le sol, parce qu'il y a une proximité maintenant entre cet éveilleur qui est quelque part dans notre nature spirituelle et l'homme physique qui vit sa vie physique. Mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre la fin de la troisième race et le début de la quatrième race, la matière s'est densifiée. Et l'homme, maintenant, il va s'incarner dans un corps de chair, donc, d'où les vêtements de peau de la Genèse, d'ailleurs. Et effectivement, il va mourir, bien sûr qu'il va mourir, mais même s'il n'avait pas développé cette soi-conscience, un peu prématurément, on va dire, eh bien, il serait mort quand même. Seulement, il n'en aurait pas eu conscience, parce qu'il n'aurait pas été capable de se projeter dans le futur. Donc, n'étant pas capable de se projeter dans le futur, eh bien, il aurait vécu sa vie d'homme innocemment, et puis voilà, il serait mort. Tandis que nous, on sait qu'on va mourir. Donc, ça peut changer les choses. Il y en a qui en sont affectés, il y en a qui vont se mettre à chercher, à comprendre la vie, à chercher. Bref, donc, nous, on sait qu'on va mourir, effectivement. Parce que le corps astral, lui, il a une durée de vie extrêmement longue, alors que le corps physique, eh bien, lui, il est soumis aux mêmes lois que la matière terrestre, c'est-à-dire la matière impermanente. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant qu'il ne s'incarne dans ce corps de chair, quand il était au moment où ces êtres, ces Manasaputras, se sont mêlés à l'humanité, eh bien, en fait, il faut savoir que le troisième œil de notre homme, notre futur homme, était actif. Ça veut dire qu'il voyait les réalités intérieures, mais les réalités intérieures, c'était son monde objectif à lui à ce moment-là. C'est que quand il est rentré dans un corps de chair, que le monde objectif est devenu extérieur et que ses yeux se sont ouverts sur le monde extérieur, ses sens aussi, et qu'il s'est attaché au monde de la matière, à tout ce que pouvaient lui procurer les objets des sens. Et en s'attachant, et en devenant aussi de plus en plus égoïste et égotique, parce qu'il se sentait séparé des autres, alors que quand il était sur les plans intérieurs et qu'il voyait ses progéniteurs, comme on l'a dit, il avait une dévotion énorme pour eux, mais en même temps aussi, il vivait en unité avec les autres. Tandis que là, en devenant un être physique à part entière et séparé des autres, eh bien, il a développé son égoïsme, et puis il s'est attaché au monde des sens, et petit à petit, son œil, son troisième œil, s'était atrophié, et maintenant, il est quasiment plus fonctionnel. Donc, ça, c'est important à comprendre, mais aussi, donc, bien évidemment, en devenant éveillé, avec un mental éveillé, eh bien, il va devenir à apprendre à devenir un homme, mais à responsable, comme on l'a dit tout à l'heure, mais à développer pleinement son humanité. Pleinement son humanité, et dans le cours de l'évolution, il devra diviniser cette humanité, devenir divin. C'est encore le fameux cycle où on doit retourner à la source. Alors, on va revenir maintenant avec le mythe de Prométhée. Alors, dans le mythe de Prométhée, Prométhée est enchaîné à un rocher, et puis, en fait, la journée, un aigle vient lui dévorer le foie, et la nuit, son foie est régénéré. Jusqu'au jour où Héraclès, un héros qui a fait maintes épreuves avant d'arriver sur le mont Caucase, tue d'une flèche l'aigle et délivre Prométhée. Alors, il faut revenir sur plusieurs choses. D'abord, Héraclès, il symbolise l'homme. L'homme que nous sommes, quand nous le voulons, quand nous décidons de prendre notre destinée en main et que finalement nous allons nous approcher de ce Prométhée. Et ensuite, il faut parler maintenant de la détérioration du foie de Prométhée. À quoi ça fait référence? Eh bien, ça fait référence précisément à notre attachement à toutes les passions, à tous les désirs humains. Et donc, quelque part, Prométhée, il souffre de cela. Parce que, qu'avons-nous fait de son éveil? Prométhée a éveillé notre intelligence. Avec cette intelligence, qu'est-ce que nous en faisons? Eh bien, nous recherchons le bien-être. Bon, c'est normal, bien évidemment. Mais il n'y a que ça qui compte. Après, il y a les sens physiques. On cherche des plaisirs, toujours plus, encore et encore. Et on essaie de toujours aller plus loin dans la recherche du plaisir. En fait, Prométhée, et on a oublié aussi l'aspect spirituel de notre nature, et du coup, Prométhée, il souffre sur son rocher, il attend qu'Héraclès vienne le délivrer. Alors, la question se pose, est-ce que c'était un péché que d'avoir goûté au fruit de l'arbre de la connaissance? Eh bien sûr que non, parce que c'est un passage obligatoire de l'évolution. Bien sûr, il a été accéléré par nos progéniteurs, nos parrains spirituels, on va les appeler. Mais c'est eux, grâce à eux, qui nous ont lancés sur les rails de l'évolution, qui nous ont appris les sciences, la médecine des plantes, l'architecture. Ils nous ont appris énormément de choses, donc c'était important. Et en plus, on n'avait pas été éveillé à ce moment-là, l'homme actuellement serait à peine plus élevé que les animaux. Donc, il serait passé par énormément d'erreurs, d'errances, avant comme on l'a dit tout à l'heure, avant d'arriver à éveiller ce pouvoir de la conscience réfléchie. Parce que c'est maintenant, il peut s'auto-juger, il peut se revoir dans le passé, donc il peut faire une analyse de lui-même, s'auto-juger, et puis avec son pouvoir de volonté, il peut décider de changer aussi bien ce qui ne va pas extérieurement, mais ce qui ne va pas aussi intérieurement, pour arriver à devenir de plus en plus parfait. Donc ce stade d'éveil du mental est une chose exceptionnelle et tellement importante et qui définit vraiment l'homme que nous sommes. Parce que tant qu'on n'a pas cet éveil de la conscience réfléchie, nous ne sommes pas des hommes vraiment. On est à peine plus élevés que les animaux. Alors, par contre, le péché, c'est quoi? C'est d'avoir abusé de tous ses pouvoirs pour asservir les principes divins, ce principe divin de cette intelligence réfléchie, l'avoir asservi au service de l'homme animal. On voit bien que cet homme animal, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approprie la nature et il l'exploite honteusement et il oublie que la terre est un organisme vivant et que tout ce qui constitue la terre est lancé dans un processus d'évolution, que les végétaux, ils ont une sensibilité, que les animaux, ce sont nos frères cadets sur l'échelle de l'évolution. En fait, La nature, elle n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la nature. Et dans cette nature, on peut tout faire, mais rien n'est gratuit, tout a des conséquences. Et quand on perturbe une harmonie, il est évident qu'on devra en souffrir un jour ou l'autre. Donc, il faut absolument être conscient de toutes ces choses. Alors maintenant, et on a dit que donc, Prométhée, quelque part, il est quelque part en nous, hein, il n'a pas disparu, quelque part dans notre nature spirituelle, et il souffre. Alors maintenant, la question qu'on peut poser, mais si Prométhée souffre, pourquoi ne nous aide-t-il pas? Pourquoi? Alors, est-ce qu'on est sûr qu'il ne nous aide pas? Est-ce qu'on est sûr qu'il ne nous a jamais aidés? En fait, Prométhée, il ne veut pas qu'on devienne des robots capables d'exécuter parfaitement ce qu'une autorité supérieure nous indiquerait de faire. Il veut faire de nous des êtres de sa stature, de son niveau, de son éveil. Donc, il va falloir, il est obligé de nous lâcher. Parce qu'un enfant, il faut qu'il fasse ses expériences. Un enfant, il faut qu'il se brouille à la cuisinière pour comprendre que la cuisinière est chaude et qu'il ne faut pas la toucher. Il va peut-être recommencer une fois, mais après, il finira par en tirer des leçons. Il y a des lois dans la nature et on ne peut pas les transgresser. Et Prométhée nous aide dans la limite précisément des lois de cette nature, c'est-à-dire de la loi de karma. Il ne peut pas aller au-delà de karma. Alors, on peut se demander, mais alors, on peut se dire... Est-ce que on n'a pas déjà été aidé, par exemple, nous est-il jamais arrivé de vouloir faire quelque chose et d'être subitement empêché de le faire et se rendre compte qu'on finalement on a échappé à un grand danger? Est-ce qu'il nous est jamais arrivé, par exemple, d'imposer une action alors que cette action allait nous être défavorable, mais comme elle était juste, on l'a imposée? Et à partir de là, ressentir une chaleur intérieure de paix et de bonheur. Nous est-il jamais arrivé de faire un rêve où on comprend, on dénoue, enfin la compréhension du rêve nous permet de dénouer une situation ou de comprendre un problème. Ou alors un rêve symbolique, allégorique, qui va nous permettre de comprendre un défaut qu'on était incapable de voir vraiment en soi-même. Et ça va nous permettre de le régler, ce défaut, enfin de le prendre en considération. Donc, on a tous eu des intuitions comme ça. Et précisément, on peut dire qu'elles viennent de Prométhée, qu'elles viennent de ce parent spirituel qui nous adore, qui nous aide. Et le problème, et Madame Blavatsky le dit très bien dans l'un de ses articles, le problème, c'est qu'il est pris dans l'atmosphère soporifique de la personnalité qui est tellement prise par des tas de préoccupations matérielles, par des tas de projets, de désirs, qu'il est comme un oiseau dans une cage qui est complètement étriqué dans cette cage. Il ne peut remuer une plume. Le chanteur reste muet. Il ne peut pas nous parler. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les nuits, il est libéré. Il est libéré parce que nous tombons dans le sommeil. Mais le problème, c'est que le moi intérieur, lui, il est dans l'inconscience du sommeil. Alors, il va peut-être voir dans un demi-sommeil quelques bribes de ce qui va se passer sur le plan spirituel. Et quand il va se réveiller, eh ben, il va décoder son rêve, mais avec toute la mémoire encombrée de toutes les préoccupations et puis tout son psychisme, toute son histoire et tout, ce qui fait que ça va être un fratras incompréhensible. Et c'est comme ça que souvent on classe les rêves. Ils n'ont ni queue ni sens. Eh bien, quelquefois, c'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs types de rêves. Donc, et quand c'est un rêve qui nous vient de ce qui s'est passé au niveau de l'ego parce qu'il se retrouve sur son propre plan, eh bien là, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à savoir. Et souvent, quand on a un rêve, Madame Blavatsky nous dit que quand on a un rêve avec une séquence organisée qui veut dire quelque chose, eh bien ça veut dire que l'ego a participé à l'élaboration du rêve, l'ego supérieur. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et la théosophie nous dit aussi qu'au moment du mourir, eh bien, au moment de la première mort, précisément quand on a lâché les liens avec le corps physique, eh bien, il va se retrouver dans l'atmosphère rayonnante de lumière, d'amour de ce parent spirituel. Et là, il va revoir sa vie non plus avec la vision étriquée de l'homme personnel qu'il était, mais avec une vision beaucoup plus profonde, beaucoup plus omnisciente, on va dire. Et il va comprendre l'enchaînement des causes et des effets de tout ce qu'il a vécu. Il va en comprendre l'entière justice, parce qu'il va voir qu'en fait, c'est lui qui a été à l'origine des causes. Donc, c'est vraiment formidable d'avoir ce parent spirituel qui est quelque part dans sa nature. En fait, il n'a pas disparu de notre être, c'est nous qui ne sommes plus capables de le sentir. Puisqu'on a, notre troisième âme s'est atrophié. Mais c'est pas atrophié, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il peut refonctionner. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de, si on se tourne vers le spirituel, si on essaye d'entendre quelque chose de ce sang, de ce chant qui veut sortir de cet oiseau qui est complètement enfermé, eh bien, on va pouvoir commencer à faire vibrer cette glande au creux de notre cerveau qui représente le troisième œil. Alors, dans la Genèse, pour revenir dans la Genèse, il a été dit que l'homme a goûté le fruit de l'arbre de la connaissance. Donc maintenant, on a compris les conséquences que ça a eues, on a compris ce à quoi ça faisait référence, mais il est parlé aussi de l'arbre de vie. L'arbre de vie, et Dieu a dit qu'il fallait empêcher l'homme d'atteindre le fruit de l'arbre de vie pour l'empêcher de vivre éternellement. Alors qu'est-ce que c'est que cet arbre de vie? Eh bien l'arbre de vie, eh bien, c'est d'arriver à atteindre l'état de l'immortalité. Alors l'immortalité, c'est bien évidemment pas l'immortalité du corps physique. Parce que même si dans le cours du temps, il est possible qu'on arrive à reculer davantage l'âge de la mort du corps physique, c'est un véhicule qui est soumis à toutes les lois de la matière terrestre, donc les lois de la permanence. Il mourra fatalement un jour ou l'autre. Cette immortalité dont on parle, c'est l'immortalité de conscience. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'évolution dont nous sommes, où nous sommes, eh bien, nous n'avons pas l'immortalité de conscience, c'est-à-dire qu'on a des coupures, on a des moments d'inconscience. Parce que quand on rêve, c'est un monde d'effets en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont induire le rêve et puis toute une machinerie qui vont mettre en scène le rêve. Quand on va mourir, les états de conscience après la mort, c'est pareil. C'est en fait, c'est un monde d'effet par rapport à tout ce qu'on a vécu. On ne se dirige pas, on ne vit pas réellement sur ces plans. Alors, en fait, il faut savoir que l'immortalité de conscience, eh bien, tous les éveillés l'ont atteint, cette immortalité de conscience. Tous ces grands, Jésus, Bouddha et d'autres, ils ont atteint cette immortalité de conscience. Et ces éveillés, ici, nous les appelons les maîtres de sagesse, ou alors nous les appelons aussi les Mahatma. Mahatma, alors Mahat, en Maha, en sanskrit, ça veut dire grand, et Atma, ça veut dire âme. Ce sont des grandes âmes, des âmes qui se sont élargies au niveau du logos, de la lumière du logos. Et en fait, nous aussi, nous sommes des âmes, mais des âmes qui sont limitées à cause de notre personnalité, qui est séparée, qui voit les choses de telle et telle façon. Du coup, eh bien, nous sommes une petite âme, mais nous devons arriver à nous développer pour atteindre l'état de ces grands éveillés. Et donc, il va falloir, en fait, cette personnalité, ce moi personnel, ce moi intérieur, il va falloir l'élargir au niveau de l'individualité. Cette individualité qui représente chez nous toute la somme de toute l'expérience du passé. Et donc il y a une richesse immense, un héritage immense quand on arrivera à ce niveau. Mais à partir de cette individualité, il faut immédiatement sentir l'unité de la vie. Il faut immédiatement la transcender pour s'unir, pour dilater sa conscience au soleil duquel nous sommes un rayon, et donc ce logos dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il va falloir arriver à donc élargir cette conscience, mais ça ne veut pas dire qu'on va perdre notre individualité. On conservera notre individualité, mais on aura la conscience du tout. Et donc, ça change tout, parce que la vie, les autres, on les verra comme un aspect de nous-mêmes. Ça change tout, on ne verra plus la séparativité. Donc, on aura une vision complètement différente, une vision spirituelle des choses. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment entaché par ce péché originel ? Sommes-nous des pécheurs en essence ? Et bien sûr que non. Là, on a compris que notre nature est divine en essence. Et en fait, cette nature physique, subtile, parce qu'il va falloir sublimiser toute notre nature physique pour arriver à atteindre cet état donc, où on est capable de s'unifier au logos, eh bien, cette nature, symboliquement, elle est représentée comme la mère vierge, et le père, c'est l'esprit. Et il va falloir remonter à l'esprit en spiritualisant la matière, et c'est tout le but de l'évolution, bien évidemment. Alors, pour aller un peu plus loin et pour comprendre les choses, on va prendre un petit livre qui s'appelle « La lumière sur le sentier ». Et là, il est écrit « Chaque homme est à lui-même, d'une façon absolue, la voie, la vérité et la vie ». Et ça, on se souvient que Jésus a dit à peu près la même chose. Alors, dans ce petit livre, il est dit « Mais il n'est cela que lorsqu'il saisit fermement toute son individualité et que, par la force de sa volonté spirituelle éveillée, il réalise que cette individualité n'est pas lui-même, mais une chose qu'il a créée avec peine pour son propre usage, et grâce à laquelle il se propose, à mesure que sa croissance développe lentement son intelligence, d'atteindre à la vie qui transcende l'individualité. Quand il sait que c'est pour cela qu'existe sa vie séparée, merveilleuse et complexe, alors vraiment, et alors seulement, il se trouve sur la voie. » Alors, effectivement, nous sommes sur la voie. Donc, notre âme doit se dilater, comme on l'a dit, au niveau de la conscience une. Mais, pour ce faire, n'oublions pas qu'il y a le parent spirituel qui est prêt à nous aider. C'est un petit peu dans la Bible l'histoire de l'enfant prodigue. Il a un père, mais voilà qu'il est parti de la maison, il fait n'importe quoi, il va même manger de la nourriture des cochons. Et au moment où il est le plus bas, il se souvient qu'il a le père, et le père qui l'attend. Et à partir du moment où il se souvient qu'il a le père fait un pas, pour ainsi dire, devant le fils, et le fils va pouvoir remonter et retourner jusqu'au père. Donc, nous avons donc ce parent spirituel qui nous aide. Et il est toujours là, même si on ne l'entend pas. Il faut savoir qu'on aura beaucoup de batailles à livrer. Karma nous remet sur le métier. Nous sommes réincarnés ici, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on a des leçons à tirer, on a des choses à apprendre. Donc la vie va nous remettre sur le métier. Il y aura des tas de défauts dans notre nature dont on va prendre conscience petit à petit. Peut-être que c'est notre éveilleur qui va nous aider à comprendre les choses. Eh bien, en fait, il faut savoir que chaque défaut que l'on aura vaincu en cultivant la vertu opposée est un barreau de l'échelle qui nous rapproche de notre but. Mais si on ne fait pas alliance avec ce parent spirituel, avec cet éveilleur qu'on a en nous, qui est au cœur de notre nature, et il est où ? Il est quelque part dans notre cœur. C'est là qu'on va le trouver. C'est là qu'on pourra entendre, percevoir un petit peu quelque chose du son qu'on n'entend pas avec des mots. Et donc, en fait, il faut savoir que les défauts, c'est facile. On est égoïste, peut-être on ment, peut-être qu'on n'est pas toujours gentil. Bon, ça, c'est des défauts qui sont faciles, on les comprend, on les connaît. facile entre guillemets à lutter avec. Mais bon, on va peut-être y arriver, mais après on va rentrer dans la subtilité et ce sera beaucoup plus difficile de comprendre les choses et de les voir, d'avoir le discernement pour les comprendre. Mais si on se tourne vers notre nature spirituelle, vers ce parrain, il va nous éclairer, il va nous montrer les choses. Et sans l'alliance qu'on fera avec lui, eh bien, il faut savoir qu'on sera incapable de lutter contre certains défauts qui sont des défauts terribles et qui sont peut-être les derniers ennemis à combattre, tels que l'égoïté et l'orgueil, l'amour de soi. Enfin, c'est quelque chose qui est terriblement difficile à combattre. Alors, si vous voulez bien, pour terminer, on va simplement continuer à lire un passage pour montrer combien il est important de faire alliance avec ce parent spirituel. Mais avant cela, je voudrais simplement dire quelque chose, c'est que, en fait, on a la théosophie, peut-être qu'un jour on trouvera un maître qui en sait un peu plus que nous et qui nous éclairera sur le sentier. Et il va nous amener à un certain niveau. Le maître, lui, son devoir, si on a la chance un jour d'en rencontrer un, ce sera de nous permettre à faire la jonction avec notre parent spirituel. Madame Blavatsky, dans l'un de ses articles, dit que ce parrain spirituel, c'est l'initiateur des initiés. Donc ça veut dire qu'il y a tout un bout de chemin où personne d'autre que lui pourra nous aider à le réaliser. Alors donc, nous allons lire un petit passage de la lumière sur le sentier, donc à propos de ce parent spirituel, ou cette présence divine que l'on a au cœur de sa nature. On ne sait pas trop comment l'appeler, parce que si on appelle parent spirituel, peut-être qu'on aura tendance à personnifier les choses, et c'est pas ce qu'on veut transmettre comme idée. C'est quelque chose de beaucoup plus impersonnel parce qu'il est enraciné dans l'unité, il est enraciné dans sa source, et c'est pas un être personnel à qui on peut faire une prière, demander si. Par contre, quand on est sur le chemin d'éveil, on peut, il va nous nourrir suivant nos besoins, et donc c'est pour ça qu'il faut se tourner vers lui. Alors, donc, toujours dans ce petit livre de la lumière sur le sentier, il est dit « Tiens-toi à l'écart dans la bataille prochaine et tout en combattant, ne sois pas le guerrier. » Alors, on sait très bien que c'est parce que on est en lutte pour finalement arriver à faire naître l'homme nouveau. Il y a des tas de choses, comme on l'a dit, tas de défauts, des défauts de plus en plus subtils qu'il faudra se débarrasser. Donc c'est une lutte, c'est une bataille. C'est pour ça qu'il est parlé de bataille et de guerrier. Cherche le guerrier et laisse-le combattre en toi. Prends ses ordres pour la bataille et suis-les. Ne lui obéis pas comme s'il était un général, mais comme s'il était toi-même et comme si ses paroles étaient l'expression de tes désirs secrets. Car il est toi-même, quoique infiniment plus sage et plus fort que toi. Cherche-le de peur que dans la fièvre et la précipitation du combat, tu passes sans le voir. Et il ne te reconnaîtra pas, à moins que tu ne le reconnaisses. Si ton cri arrive jusqu'à son oreille attentive, il luttera en toi et remplira le morne vide intérieur. Et s'il en est ainsi, tu pourras traverser la bataille calme et infatigable, en te tenant à distance et en le laissant combattre pour toi. Alors, il te sera impossible de frapper un seul coup à faux. Mais si tu ne le cherches pas, si tu passes sans le remarquer, il n'y aura plus de sauvegarde pour toi. Ton cerveau sera pris de vertige et ton cœur perdra son assurance. Dans la poussière du champ de bataille, ta vue et tes sens se troubleront et tu ne reconnaîtras plus tes amis de tes ennemis. Il est toi-même, bien que tu sois fini et sujet à l'erreur. Lui est éternel et sûr. Il est l'éternelle vérité. Une fois qu'il aura pénétré en toi et sera devenu ton guerrier, il ne t'abandonnera plus jamais complètement. Et au jour de la grande paix, il deviendra un avec toi. Alors, amis, on peut être sûr que si on se tourne vers ce parent spirituel, eh bien, on pourra un jour goûter l'arbre de vie non pas pour arriver à un état de conscience peut-être merveilleux, mais pour devenir de plus apte à aider les autres, à être un être de paix, d'amour et de sagesse. Voilà, Annie.